La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 15e émission de la Semaine de l'Art, on ne voit pas le temps passer, avec aujourd'hui notre invité Sylvain Amic, directeur des musées de Rouen. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous nous direz en deux mots, directeur des musées de Rouen, cela m'intrigue parce que c'est vrai qu'on parle souvent du musée des Beaux-Arts de Rouen, mais il y a plusieurs musées à Rouen et ça sera, nous en parlerons dès que je vous aurai donné ma chronique.
La chronique.
Nous avons passé en début de semaine deux jours au musée des Beaux-Arts de Rennes et nous avons été particulièrement impressionnés par l'activité qui y règne. Depuis l'arrivée d'Anne Barry à sa tête et le recrutement de Guillaume Caserouni comme responsable des collections anciennes et 19e siècle, ce musée semble connaître une nouvelle vie. Acquisitions nombreuses, qu'il s'agisse d'œuvres très importantes comme le tableau de Ribera récemment entré dans les collections ou d'œuvres plus mineures mais importantes pour les collections comme un album de dessins de Léon Cogniet, dont certains en rapport avec le massacre des innocents qu'on peut voir dans les salles, restauration, exposition, comme celle qui vient d'ouvrir sur les dessins français du 16e et 17e siècle, travail sur les collections, comme celui qui vient de débuter sur le fonds de dessin de Charles Godet, un artiste complètement inconnu de la première moitié du 20e siècle, mais qui constituera certainement une révélation en 2018 lorsqu'ils seront exposés, publication autour des collections avec une série de petits fascicules. Il y a de la passion dans le travail de cette équipe qui fait plaisir à voir. Rennes est un musée vertueux comme on les aime. Il y a heureusement beaucoup de musées vertueux. Lyon est un autre exemple, et nous parlions la semaine dernière de son exposition magnifique, l'invention du passé. Sylvie Ramon réussit aussi des acquisitions exceptionnelles en multipliant les sources de financement. Autre musée, bien sûr, que nous citons souvent, et Sylvain Amic le connaît bien puisqu'il y a longtemps travaillé, le musée Fabre de Montpellier, mené de main de maître par Michel Hilaire. Nous pourrions en citer beaucoup, et nous serions forcément injustes, d'autant que nous ne savons pas forcément tout ce qui se passe en province. Parlons de Quimper, où Guillaume Ambroise fait un travail remarquable, là encore scandé d'exposition et d'acquisition, ou de Caen, qui depuis de nombreuses années est dirigé par Patrick Ramad, qui chaque année achète au moins un tableau important et d'autres œuvres moins chères, mais pas moins utiles pour les collections. Il fait lui aussi de belles expositions. Parmi les petits musées, n'oublions pas Bourg-en-Bresse ou Moulins, nous pourrions en citer beaucoup, notre liste n'est pas exhaustive du tout. Si derrière un musée vertueux, il y a souvent une collectivité territoriale qui le soutient, ce n'est pas forcément le critère principal et unique. Car par exemple, les musées de la ville de Paris, dont on ne peut pas dire que les municipalités soient très vertueuses, sont aujourd'hui dirigés pourtant par des personnalités remarquables qui réussissent un travail de fond, même si les moyens qui leur sont alloués sont souvent très réduits. On doit reconnaître au moins à la municipalité parisienne un choix plutôt heureux des conservateurs récemment nommés. Au Petit Palais, Christophe Leribou fait renaître le musée, il n'y a pas d'autre mot, grâce à des expositions en tout point magnifiques, et un programme à venir non moins alléchant. Et à des acquisitions réalisées avec des moyens réduits, mais toujours avec beaucoup d'à-propos, nous en parlerons bientôt. À la vie romantique, il n'était pas facile de succéder à Daniel Marchesso. Jérôme Farigoul, formé à l'excellente école Montpellier-Rennes, est en train d'y réussir avec brio. On pourrait parler de la remarquable Amélie Simier au musée Bourdais des Atkins. On aura sans doute de bonnes surprises avec le musée Cognac-Jay et le musée Carnavalet, dont les échos qui nous parviennent sont plutôt bons, même si le choix des directrices, au départ, n'était pas forcément évident, celle-ci étant plutôt spécialisée dans l'art contemporain. Nous ne connaissons pas personnellement le musée Antoine Lécuyer de Saint-Quentin, nous aimerions d'ailleurs y aller, mais nous voyons le travail réalisé par Hervé Cabezas, avec des moyens terriblement réduits. On pourrait parler également du musée de Berck, avec Patrick Descamps. Bref, ce qui fait d'un musée un musée vertueux, c'est d'abord la personnalité de celui ou de celle qui le dirige, et si parfois à l'impossible nous n'est tenu, comme on peut s'en apercevoir à Bayonne avec le musée Bonnat, il est clair que les conservateurs sont parfois irremplaçables. N'est-ce pas Sylvain Amic, vous me faisiez cette réflexion, quand on dit « nul n'est irremplaçable », vous n'êtes pas d'accord avec cela?
Oui, je crois effectivement que c'est un des proverbes les plus bêtes qui soit et qui est tout le temps utilisé par, en fait, surtout, je dirais, même l'administration au sens large. On dit toujours « les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables » ou « nul n'est irremplaçable » et il n'y a pas plus bête. On voit tout le temps que des personnalités ont su insuffler de la vie de la passion dans un établissement ou dans la tête d'une collectivité, et que leur disparition fait changer du tout au tout l'activité de cet établissement. Donc je pense effectivement que tous ces musées que vous venez de citer, et vous n'avez pas encore cité celui de Rouen.
Quelle horreur, mais j'avais... Alors je n'avais pas terminé. Non, mais
tous ces musées sont effectivement...
Je vous explique pourquoi.
Tous ces musées sont effectivement d'abord le fruit de leur activité, le fruit de personnalités. Alors, qui ont su allier la passion, mais aussi le savoir-faire et parfois même la diplomatie quand on travaille avec des collectivités.
C'est le problème du direct, c'est que j'avais en fait inclus Rouen dans ma chronique et finalement j'avais décidé de la mettre à la fin pour en faire la conclusion. Et puis je l'ai oublié. Ce n'est pas grave, je reprends donc ma chronique. Rouen est également un musée vertueux. Là encore, nous sommes impressionnés par le travail que mènent Sylvain Amic et l'équipe de conservation. Malgré un budget d'acquisition en berne, et même plus que cela, nous en parlerons sans doute puisque cette année le budget était nul, ils auraient réussi à acheter en vente un très important tableau d'Adrien Sacaspé grâce à l'aide de la Société des Amis. Une grande exposition vient d'ouvrir, dont nous parlerons aussi, qui vient en parallèle de l'exposition Le Temps des Collections, désormais annuelle, qui permet de faire redécouvrir les collections permanentes. Donc j'avais bien prévu, effectivement, de parler du musée de Rouen, mais j'avais au dernier moment déplacé le paragraphe, mais c'était pas grave, voilà, nous avons parlé du musée de Rouen, et si je vous ai fait venir, c'est effectivement parce que je pense que vous faites un travail vertueux.
Merci.
Alors, revenons tout de même, avant de parler du travail vertueux à Rouen, quel est votre parcours professionnel? Est-ce que vous avez commencé à Montpellier?
J'ai commencé à Montpellier. En fait, j'ai un parcours un peu atypique pour un conservateur, puisque j'ai commencé par faire des études de sciences physiques, des études de langue et civilisation chinoise, avant de finalement me consacrer à l'histoire de l'art. J'ai été aussi instituteur pendant 8 ans. Donc, je suis arrivé à l'âge de 30 ans au métier de conservateur avec le concours de l'INP et mon premier poste à Montpellier au moment où on allait lancer le chantier du musée. C'est-à-dire, je suis arrivé au mois de mars, je me souviens, et au mois d'avril, nous rendions le PC en 2000. Le musée a fermé en 2002, nous avons rouvert en 2007. Donc ça a été, j'ai quitté le musée en 2011. Donc ça a été 11 années extrêmement riches parce que je crois que j'ai vu tout ce qu'on peut voir dans la vie de conservateur, vider un musée, restaurer les collections, les faire circuler, faire des grandes expositions. Un immense chantier, 65 millions de travaux, qui est arrivé finalement assez tard dans le programme de restauration des musées, mais qui d'une autre façon, on avait tiré les leçons et a pu s'adapter à une nouvelle situation. Je crois que aujourd'hui, Montpellier dispose d'un outil tout à fait adéquat et qui va encore produire de très belles, de très beaux projets pendant des années. Donc, ça a été 11 années très riches pendant lesquelles j'ai pu aussi mener des grandes expositions, comme par exemple l'exposition Émile Nolde que j'avais faite au Grand Palais et à Montpellier, mais aussi j'avais participé au Grand projet sur Courbet, j'étais un des 6 commissaires des projets d'art contemporain avec le Musée national d'art moderne, comme l'histoire de l'art vidéo ou un hommage à un grand marchand d'art qui était Jean Fournier, une grande exposition impressionniste, l'impressionnisme de France et d'Amérique, et puis Cabanel, voilà, oui. Je suis parti sur Cabanel, et beaucoup aussi de petits projets d'art contemporain qui sont des petites monographies comme Deuzeux, Soulages, Pierrette Bloch, etc., Bordarier, qui ont émaillé ce parcours. Donc ça a été un moment très très riche et très formateur avec une collectivité qui a donné des moyens considérables.
Considérable. Je pense que c'est la collectivité qui donne le plus de moyens à un musée.
Encore aujourd'hui, je pense, oui, je ne sais pas si ça va continuer, espérons. Mais c'est vrai que nous avons eu des moyens de le chantier d'abord, mais aussi d'acquisition et de restauration et pour produire de grandes expositions tout à fait importantes. Situation qui permet de travailler au plus haut niveau et c'est vrai que pour moi c'est le seul niveau auquel on doit travailler, même si, quels que soient les moyens, mais je reconnais que c'est pas, faut parfois faire des prouesses pour rester à ce niveau-là.
Par exemple, au niveau des acquisitions, il y avait beaucoup d'acquisitions à Montpellier.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait un grand édile qui a été fort critiqué, mais qui était néanmoins...
Qui était certainement critiquable sur bien des points, mais qui,
faut reconnaître, a été pour les musées et qui, par exemple, s'était fait, quand il est arrivé en 77 à la tête de la ville de Montpellier, s'était fait la réflexion que plus jamais une toile de Frédéric Bazille ne quitterait le sol français. Et ça s'est produit, on a même fait revenir sur le sol français. Donc voilà, c'était une page était tournée, tous ces tableaux étaient partis dans les années 60-70 aux États-Unis. À partir de 77, ils sont restés en France et aujourd'hui 16 ou 17 Bazille au musée Fabre, là où il y en avait 5 ou 6 il y a quelques années. Donc il y a eu des gros gros efforts d'acquisition, bien sûr aussi sur les collections anciennes, et une campagne de restauration énorme, puisqu'on a, je crois, dépensé plus de, pas loin de 2 millions hein, pour les restaurations du musée pendant le grand chantier des collections, de numérisation. Donc on a fait les choses en grand. Alors ça, c'est évidemment aussi le fait de mener un grand chantier où on vide un musée, où on reprend les choses à zéro. Mais ça permet de remettre un musée en état pour 20 ou 30 ans, mais de remettre tout à niveau également, le travail scientifique, le travail des équipes techniques, toutes les procédures. Et ça, ça arrive assez rarement dans la vie d'un musée.
Alors vous disiez, vous avez travaillé finalement sur Cabanel,
Nolde, Courbet,
sur le 20e également.
Sur le 20e,
vous,
oui.
Vous êtes, parce que des fois, il y a une spécialité à l'INP qui est 19e, 20e, qui paraît des fois un peu antinomique, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grosse rupture au 20e siècle, et vous êtes spécialiste un petit peu des deux, en fait.
Oui, alors moi, je me suis toujours occupé du 19e au contemporain, et c'est vrai qu'on peut critiquer éventuellement ce rapprochement, et je pense que...
Pas forcément, c'est rare d'avoir quelqu'un qui soit spécialiste
des deux. Non, voilà, pour moi, c'est assez légitime, parce que quand on travaille sur Courbet, par exemple, on voit bien que Courbet met en place tout ce qui fait l'art contemporain d'aujourd'hui, on voit bien que dès qu'on touche au 19e, se met en place également tout ce qui fait notre monde contemporain, la place de l'artiste, rappelez-vous, j'ai fait l'exposition Bohème au Grand Palais.
Oui.
Précisément, c'est un moment tout à fait exceptionnel où le statut de l'artiste change complètement, où les marginaux finalement deviennent les principaux réformateurs de l'art. Donc moi, je pense que c'est parfaitement légitime de montrer cette filiation entre 19e et contemporain en passant par le 20e. C'est aussi la naissance de l'image, l'image photographique et cinématographique. Donc on a la chance, quand on travaille sur le 19e siècle, de pouvoir compléter une vision, la vision d'un mouvement pictural avec l'appui de la photographie, voire un peu plus tard l'appui du cinéma. Donc je pense que c'est assez cohérent finalement de garder cette jonction 19e-20e.
Alors donc arrivons à Rouen, donc c'était en 2011, c'est ça, ça fait déjà 3 ans.
Octobre 2011.
Octobre 2011, donc vous avez 3 ans. Vous êtes directeur des musées de Rouen. Alors dites-moi, parce que c'est vrai qu'on connaît le musée des Beaux-Arts. Grâce à vous, j'ai découvert, la dernière fois que je suis venu à Rouen, vous m'avez dit d'aller voir le musée archéologique qui vaut le coup d'œil.
Ah, c'est une des plus belles collections d'antiquités de la province. Hein.
Et d'antiquités, et jusqu'au Moyen-Âge.
Ça
vaut le coup, effectivement. C'est d'ailleurs entre la gare et le musée des Beaux-Arts, donc c'est assez facile. Mais c'est un musée départemental.
Voilà, je n'en suis pas le directeur.
Non, vous n'êtes pas le directeur. Alors quels sont les autres musées dont vous êtes directeur?
Alors il y a 3 musées dont je m'occupe. C'est d'abord évidemment le musée des Beaux-Arts, mais c'est aussi 2 musées d'art décoratif. Le musée de la céramique, qui a une collection tout à fait remarquable, plus de 8000 pièces, une des plus belles collections de céramique en France. Et puis le musée Le Sec-les Tournelles, qui est un musée, alors là, tout à fait singulier, c'est le seul au monde. C'est un musée qui est consacré à l'art du fer, dû au fameux photographe Henri Le Sec, qui a été un des premiers photographes français et un des membres de la mission héliographique, et de son fils qui a continué sa collection, qui a été donnée à la ville de Rouen en 1921 après avoir été exposée en 1900 au musée des arts décoratifs à Paris. Et c'est une collection qui rassemble tout ce que le génie humain a pu produire dans l'art du fer, que ce soit les enseignes, les chefs-d'œuvre, les objets ordinaires, les tours de force que sont les coffres et serrures qui sont d'un raffinement absolu. Donc on est dans l'objet du plus simple au plus complexe à travers trois siècles de création. Et pour vous donner une idée, c'est un musée qui a totalement fasciné le fameux docteur Barnes, au point qu'il a commencé à collectionner les objets en fer après sa visite au musée en 1931, et qu'aujourd'hui les visiteurs de la Fondation Barnes à Philadelphie se demandent encore pourquoi entre un Matisse et un Cézanne on trouve des serrures, des gonds et des heurtoirs. Donc c'est un moment extrêmement intéressant, parce que c'est aussi un moment où on se préoccupe de la, disons, de la continuité des formes entre les arts, les expressions plus populaires et les expressions les plus élevées. C'est le grand moment aussi de la recherche du primitivisme, et on trouve ça complètement dans l'attitude de Barthes. Donc en fait, ce sont des collections qui sont très complètes, 35 000 objets en tout, ce sont immenses. Vous parliez du musée Fabre, c'est tout simplement le double du musée Fabre, 3 000 tableaux, 10 000 dessins, 800 sculptures, donc une collection très abondante et qui est, je pense, évidemment, les historiens d'art la connaissent très bien, en particulier pour les beaux-arts, mais qui est surtout extrêmement complète. C'est-à-dire que quand on peut dire Caravage, Poussin, Velázquez, bon, en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir cette triade réunie.
Alors dites-nous un peu quels sont vos projets pour ce musée, enfin pour ces musées, et notamment pour le musée des beaux-arts, puisqu'il y avait... Il y a quelques années, on m'avait dit la bibliothèque va dans une nouvelle médiathèque, le musée va s'étendre sur la bibliothèque qui est derrière le musée, et finalement, cela n'est pas arrivé. Donc, en revanche, je sais que vous avez une ambition pour ce musée, parce que vous n'avez pas forcément suffisamment de place, vous êtes obligé d'emprunter un peu sur les collections permanentes pour vos expositions, dont l'exposition cathédrale dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, pour vous, la situation n'est pas encore optimale. Quels sont vos projets?
Vous savez, c'est un des premiers musées, c'est le premier musée en France, le musée des Beaux-Arts, à avoir été rénové, hein, très très tôt, sous François Bergot, je ne sais pas s'il nous écoute, mais je le salue, qui a accompli vraiment un travail de sauvetage incroyable. C'était aussi sous la férule d'André Putman, qui a su travailler tout en retrait et donner à sa rénovation une élégance qui traverse le temps. Mais en même temps, cette rénovation, elle a 20 ans aujourd'hui. Nous célébrons le 20e anniversaire de la première tranche de travaux en 94. Au bout de 20 ans, on le voit avec le musée Picasso, eh bien, il est bon de revenir un peu sur certaines dispositions. En fait, ce musée a inventé, d'une certaine façon, en province, la librairie, le restaurant, les ateliers pour enfants. Tout ça a été déjà en germe dans le musée, et une grande salle d'exposition temporaire également, qui fait 500-600 mètres carrés. Et puis, des collections redéployées avec plus de 800 ou 900 objets présentés. Mais quand on a 800 ou 900 objets présentés sur, par exemple, 3000 tableaux, et sans compter les objets d'art, les 15 000 objets d'art, évidemment, c'est peu de choses et nous souffrons, comme tous les musées, d'un certain manque de place. Mais c'est pas vraiment cela qui motive pour moi l'ambition pour ce musée, c'est plutôt de faire de ce musée un musée du 21e siècle avec les conditions de présentation, d'accueil, de conservation auquel on est habitué aujourd'hui, auquel le public est habitué. Et c'est se doter d'un outil performant. Effectivement, c'est embêtant de devoir décrocher une partie des collections pour faire une exposition de 1000 m2. Mais c'est quelque chose que j'ai connu au musée Fabre aussi, où la salle d'exposition fait 800 m2 et elle est parfois un petit peu petite.
C'est vrai que, par exemple,
pour les collections contemporaines, parfois au musée Fabre.
Pour les Caravaggio, je crois, on montait dans les collections.
Tout à fait. Et c'est récurrent, hein, je l'ai vécu. Donc c'est un souci également. Non, je pense qu'on peut. C'est un musée qui a une collection incroyable, qui est à 1h15 de Paris, qui peut tout à fait augmenter sa fréquentation et sa visibilité encore, au prix voilà, de quelques ajustements. Ce n'est pas des travaux pharaoniques, mais c'est des travaux qu'il faudra mener si le musée ne veut pas petit à petit perdre un peu le fil du mouvement. On voit aussi, par exemple, le Grand Musée de Reims que l'on projette pour 2017.
Mais malheureusement, je crois que le musée de Reims est pour le moment compromis, puisque l'ancien maire était battu et que le nouveau maire avait dit que ça ne se ferait pas.
Écoutez, on avait dit ça pour le musée Soulages à Rodez et vous voyez qu'il va ouvrir. Donc il faut rester confiant.
Parce que le projet de Reims que j'ai vu est assez beau.
Il est important. Je pense que on doit rester dans cette dynamique-là. C'est pas forcément toujours le musée, le projet grandiose qui va coûter, parce qu'il faut évidemment dans la crise actuelle, il faut penser aux finances publiques. Mais c'est simplement faire le nécessaire pour qu'un musée reste au niveau où il est, au niveau de sa collection, au niveau d'exigence que nos prédécesseurs ont eu, que ce soit des conservateurs ou des édiles. Il y a des travaux à faire. Je pense que le fait que la bibliothèque ne soit pas partie, bon, c'est pour moi c'est du passé. Je m'inscris pas du tout dans ce qui a pu être une guerre ou un conflit ou disons des ambitions. Je pense que il y a dans cet équipement une logique, celle d'une bibliothèque patrimoniale et d'un musée des beaux-arts qui sont sous le même toit. Je pense qu'on est beaucoup plus à même de réfléchir à des synergies entre les deux équipements avec des fonctions mutualisées, par exemple l'accueil des chercheurs, le cabinet des dessins.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de dessins, le cabinet des dessins est partagé en deux finalement.
Alors il y a 10 000 choses chez nous, il y en a un petit peu moins chez eux, mais il y a un fonds tout à fait remarquable que l'on a réuni partiellement pour l'exposition Trésor de Londres,
oui,
que l'accueil avait très intelligemment réuni. Donc on a un grand intérêt à mettre en commun certaines fonctions. Je pense aussi à l'accueil des publics, aux espaces éducatifs, à un auditorium. muséum. En, simplement en réunissant ces fonctions-là, je pense qu'il y a des gains d'espace possibles. Et puis, c'est un équipement qui a encore des gisements d'espace avec des cours ou autres qui peuvent être utilisés. Donc, on peut tout à fait imaginer des travaux qui seront limités sur cet équipement-là, mais qui le mettront, je dirais, à neuf. Et puis, alors après, à plus long terme, il peut y avoir la création d'un autre équipement à Rouen. C'est une région, faut pas oublier la Normandie, dans laquelle il n'y a aucun musée d'art contemporain, par exemple, ou de musée moderne contemporain. Donc, on peut imaginer un lieu aussi plus adapté aux grandes expositions. Hein. C'est difficile de faire garer des bus devant le musée des Beaux-Arts de Rouen. Difficile d'y faire des expositions de 1200 mètres carrés. On y arrive un peu en prenant sur les collections. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre équipement à réfléchir? Avait été lancée l'idée d'un musée des grands formats.
Alors, c'est, un oui, effectivement,
c'est une idée qu'on continue
Laurent
à creuser.
Fabius, qui, en tant que président de la communauté d'agglomération, avait lancé cette idée. Elle n'est pas complètement abandonnée, je crois.
Non, elle n'est pas abandonnée. On continue à y réfléchir. C'est une idée qui est née au musée des Beaux-Arts. C'est une idée que Laurent Salomé avait formulée en son temps. C'est une idée intéressante. Il y a des contacts assez avancés aussi avec le Louvre. Et c'est une et nous sommes tous d'accord pour que un tel projet ne se fasse pas au détriment des équipements musées de la ville et de la région, et que ce ne soit pas une sorte de structure qui étouffe tout le reste. Donc c'est au contraire, je pense, un projet qui peut être extrêmement intelligent s'il est mené en concertation avec l'ensemble des acteurs, et on pourrait voir ressurgir des œuvres qui sont oubliées, qui gisent dans les réserves du Louvre ou dans les réserves
comme
de Louvre.
Comme les grands panoramas,
comme
de,
les
Jean
grands
panoramas
de Jean Allot, absolument.
Qui présente l'abbaye de Westminster et Notre-Dame, je crois, tout simplement.
L'abbaye de Westminster et...
Et non, Saint-Pierre de Rome.
Saint-Pierre de Rome, voilà,
tout à fait. Qui sont des tableaux de plusieurs dizaines de mètres.
60 mètres de, voilà, de long.
Les nouvelles très très brèves.
J'en parlais tout à l'heure, le musée des Beaux-Arts de Rennes vient donc d'ouvrir une exposition de dessins français des 16e et 17e siècles. Alors on connaît bien sûr la collection du marquis de Robien et l'important fonds italien qui avait donné lieu à une exposition Disegno il y a quelques années. Le travail de Guillaume Caseroni qu'il a fait en assez peu de temps est assez remarquable parce que il a, présente une exposition comme on en voit dans d'autres musées actuellement. Le musée de Grenoble présente son fonds nordique, qu'il avait auparavant présenté son fonds français, c'était Guillaume Caseroni déjà qui s'en était occupé, son fonds italien par Eric Pagliano. Il y a actuellement à la Bibliothèque Nationale toute proche une superbe exposition de dessins français du XVIIe siècle que je vous encourage à aller voir parce qu'il n'y a pas effectivement beaucoup de communication autour de ces expositions et c'est dommage. Je parlerai de toutes ces expositions, de celle de Grenoble, de celle de la Bibliothèque Nationale, mais là un petit mot de celle que j'ai vue il y a 3 jours, c'est vraiment le type d'exposition sur un fond qui fait ressortir des œuvres, des dessins, des artistes même qu'on connaît assez peu. Et donc, cette exposition a ouvert il y a 2 jours à Rennes. C'est une bonne occasion d'aller voir ce beau musée des Beaux-Arts de Rennes.
Il faut dire à quel point c'est courageux de faire des expositions de dessins, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas des expositions qui font des chiffres de fréquentation fabuleux.
Exactement.
Et en même temps,
c'est ce que vous aviez fait.
Voilà, mais c'est en même temps une obligation, un devoir. Et c'est un énorme investissement scientifique, parce que quand on sort des dessins anonymes qu'on attribue, c'est un exercice extrêmement complexe. Donc nous l'avons fait par exemple avec en mettant en perspective aussi l'exposition avec un effort sur le récollement, plus de 1000 dessins récollés, de photographies, de numérisation et donc la publication du catalogue. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective le travail des équipes et de le rendre visible par ce type d'exposition. Et je crois que Guillaume Caseroni, j'ai pas vu l'exposition, mais a eu la très bonne idée de travailler aussi avec un artiste contemporain qui a apporté un aspect. Je crois que c'est Guillaume Pinard, si même.
Alors, c'était la précédente, le dessin italien. Oui. Parce qu'il considérait aussi que les dessins italiens du musée de Rennes, finalement, n'avaient pratiquement jamais été exposés depuis Disegno, je crois, à Rennes. Donc, il avait une exposition, mais qui était plus un accrochage, et effectivement, il était accroché avec, je ne l'ai pas vu, hein, mais j'ai vu quelques photos avec un fond d'un artiste contemporain.
Ah, ça, je trouve ça assez intelligent parce qu'il faut aussi raccrocher. Il faut aussi raccrocher à des problématiques contemporaines pour que le public un peu large et pas simplement les amateurs s'intéresse à ce genre de fond.
Alors, dans cette même exposition, et je vais écrire une brève à ce propos, il y a aussi dans le même musée, il y a aussi une petite exposition dossier autour de Georges Latour. Rien de révolutionnaire, c'est toujours la redécouverte de Georges Latour, mais ça permet, comme le musée de Nantes est fermé, de réunir les 3 nuits. Qui sont à l'origine de la création en fait de Georges Latour par Hermann Voss en 1917, plus le quatrième tableau, le Vieilleur de
joueur de vielle de Nantes également, qui n'avait pas à l'époque été rassemblé parce que c'était un dur et pas un nocturne, plus un petit Maurice Denis qui reprend le... plus Morellet, donc là on parle de... Donc,
il y a le nouveau-né.
Voilà, le nouveau-né, alors, je ne sais plus comment il appelle ça.
C'est une défiguration.
Voilà, une défiguration, c'est ça. Et l'œuvre de Morellet du musée a remplacé dans les salles le nouveau-né qui est dans la salle d'exposition. Enfin, voilà, donc on en parlait tout à l'heure, comme Rouen, Rennes, deux musées dont je pense qu'ils font un travail assez remarquable. J'étais cet après-midi même au musée d'Evreux, autre musée normand, donc qui lui aussi a une conservatrice qui a été récemment nommée, manifestement assez dynamique.
Oui, deux conservateurs, c'est important de le dire, parce que Evreux a gardé deux conservateurs, exactement, François Bridet et Florence Calame.
Exactement, voilà, donc il y a deux conservateurs, dont la directrice, effectivement, donc tous les deux très dynamiques, et qui, avec l'INP, viennent de monter une exposition sur le paysage. En fait, c'est une collection particulière de paysages français, mais d'une collection étrangère, en fait européenne, qui est exposée là, avec un très beau catalogue et avec beaucoup d'artistes qu'on le connaît, les Bidot, Corot, Constantin Dex, enfin voilà, bon, il y a un peu tous ces paysagistes à la fois néoclassiques, mais d'école de Barbizon également, Arpini, etc. Donc c'est une jolie exposition, avec un accrochage un peu serré qui évoque justement une collection particulière. Donc voilà encore une exposition. Je pense qu'il va falloir maintenant que j'arrête d'aller voir des expositions et que j'écrive les articles qui vont avec, parce que comme vous le savez, et on parlera...
On attend l'article sur Cathédrale.
Cathédrale, on attend le catalogue sur Cathédrale.
C'est exact.
Je vais vous dire justement que le catalogue d'exposition 16e et 17e des Saint-Français n'est pas encore paru, parce que objectivement c'est un énorme travail qui a été fait en un temps record. Et donc, il paraîtra en tout cas très bientôt. Dernière brève, à Bourges. Donc, comme vous le savez, nous avons dénoncé récemment deux scandales patrimoniaux. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était à Bourges, en plein secteur sauvegardé, un hôtel particulier entièrement vidé de ses boiseries, les fenêtres arrachées, etc. Enfin, bref, une catastrophe. Et à Louviers, donc en Normandie, des apôtres du XVIe siècle, de l'école de Gaillon, dans un piteux état. Et donc, c'est quand même là, on est vraiment dans un cas où il n'y a pas de discussion. Il y avait, dans un cas, il y a quelque chose qui n'a pas été régulier, qui a été fait. Et donc, l'ABF, suite à mon article, m'a rappelé, et elle est sur le coup. Donc, ils vont exiger, ça je le sais déjà, que les fenêtres, elles avaient l'autorisation de les remplacer, ce que je trouve très dommage. Ils n'auraient pas dû les remplacer, c'était très ancien. Mais ils devaient les faire à l'identique, elles n'étaient pas à l'identique, donc elles vont être refaites à l'identique. Et puis... ils sont également sur l'affaire des boiseries qui ont été arrachées en plein secteur sauvegardé alors que c'est protégé. Donc, comme je le dis souvent, la Tribune de l'Art fait du journalisme engagé et l'objectif, c'est vraiment la protection du patrimoine. Et quand des articles permettent d'aboutir, et en tout cas, j'espère que ça va aboutir là et j'espère que ça aboutira à Louviers où il faut au minimum que les apôtres soient sauvegardés, soient restaurés à minima, on n'a pas besoin de beaucoup de les restaurer, et soient remis en place. Ça faisait un an et demi qu'ils étaient là et personne ne le savait. Enfin, c'était vraiment incroyable. Voilà, donc les conséquences parfois de nos articles sont positives et je dois dire que j'en suis très très heureux. Alors parlons maintenant, nous en avons dit un mot, de l'exposition Cathédrale. Donc exposition que j'ai vue, alors, très belle exposition également. J'allais dire une très belle exposition parce qu'elle est remarquablement présentée, parce qu'il y a de très belles œuvres et aussi parce qu'il n'y a pas que des impressionnistes. Et j'aime beaucoup les impressionnistes, mais bon, parfois on en a un petit peu assez. Et là, c'est une exposition qui en fait, alors vous allez nous la décrire mieux que moi, mais c'est sur l'idée de la cathédrale au XIXe siècle, la manière dont les artistes les voient et de la manière dont le gothique a inspiré les artistes. Mais c'est pas sur le néo-gothique.
Non, en fait, c'est une exposition qui est dont l'idée est née avec Andreas Blum, qui était à ce moment-là le directeur du musée de Wallraf-Richartsmuseum à Cologne, parce que nous avions, lui et moi, dans notre ville, une cathédrale qui tenait une place considérable, bien sûr, et qui avait fait l'objet d'importantes transformations au XIXe siècle. Et ce qui nous intéresse, c'est de pointer comment ces objets qui sont hérités d'un lointain passé sont en fait des édifices qui prennent toute leur ampleur, toute leur place dans notre imaginaire, au 19e, à l'époque moderne, et comment ces objets finalement en viennent jusqu'à incarner à la fin de ce cheminement même l'édifice du futur. Alors évidemment il y a des impressionnistes au milieu, hein, puisque Monet en 1892 commence à sa série des cathédrales à Rouen, et bien sûr c'est un jalon dans l'histoire de l'art tout à fait considérable, puisque c'est un peu, on peut dire, l'origine presque de l'art abstrait, de l'art moderne, mais ce qui nous intéressait c'est de voir d'où sortait cette cathédrale, et qui n'arrive pas qu'en 1892 sous le pinceau de Monet.
Alors avec également Sisley, j'ai découvert, ce que je ne savais pas, que Sisley avait peint au moins une série un peu comme Monet à différentes heures du jour. C'était connu ça ou
alors c'est connu des spécialistes de Sisley, mais d'abord bon, ce qui est pas très connu, c'est que c'est Sisley qui invente le concept de série, hein, avec les inondations à Port-Marly, qui sont les premières séries de l'impressionnisme avant la Gare Saint-Lazare, qui est la proto-série de Monet. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que au moment où Monet peint sa série, donc les 30 tableaux de Rouen, Sisley, à Moret-sur-Loing, peint une série de 14 tableaux sur un édifice qui est, dont le sujet est un édifice gothique, l'église de Moret-sur-Loing. Et de la même façon, il va titrer ses tableaux en faisant référence aux heures du jour, à l'état de l'atmosphère, etc., etc.
Donc c'est Sisley qui a inventé ça.
Alors Sisley, effectivement, quand on voit les inondations à Port-Marly, on voit qu'il peint depuis le même point de vue, sans changer de point focal, les inondations et le temps qui passe, les couleurs qui changent. Et donc c'est un peu aussi une démarche très systématique qu'avait Sisley. Alors Monet en a fait le profit que l'on connaît. Ce qu'on peut dire, c'est que avec sa série de la cathédrale, Monet a pris un leadership considérable, et les autres artistes impressionnistes qui avaient travaillé sur un motif d'une cathédrale ou d'une église gothique, puisque c'est un sujet qui les passionnait tous, et qui avaient travaillé sous le principe de la série, Sisley mais aussi même Pissarro, ont toujours évité de rassembler leurs tableaux en série et de les montrer en tant que tels, laissant cette préoccupation à Monet. Mais c'était intéressant, je pense, de confronter. Vous parliez de justement, on a souvent assez de l'impressionnisme. Là, c'est juste une salle dans l'exposition, mais au sein de cette même salle, on comprend que cette sorte presque de tarte à la crème de la cathédrale de Rouen par Claude Monet est en fait un moment qui n'est pas singulier, ni dans l'histoire de l'art, ni dans l'histoire des impressionnistes, et qu'on peut la confronter de façon nouvelle à des œuvres tout aussi intéressantes de ses pairs, et de voir effectivement les différences de parties qui font que la série de Claude Monet a le succès que l'on connaît. Donc en fait, l'idée de cette exposition, c'est de montrer un siècle avant Monet et un siècle après Monet, on peut dire quasiment, comment le motif de la cathédrale a pris racine dans notre imaginaire, alors que, il faut pas oublier, surtout en France et en Allemagne, le gothique est un art qui est tombé dans l'oubli pendant plusieurs siècles, avec des épisodes parfois extrêmement malheureux, et qu'il a fallu les grands romantiques, comme Goethe, Chateaubriand et Hugo, pour le remettre sur le devant de la scène. Et ce qui est très intéressant, et je crois que c'est un peu la leçon de l'exposition, c'est qu'on découvre finalement un art du Nord, mais un art autochtone, à travers cette réhabilitation du gothique. Et les cathédrales sont perçues à la fois en France et en Allemagne comme le Parthénon de la nation. Et ça, c'est quelque chose qui est exprimé par Rodin, qui est exprimé par les Allemands également. Cette idée que nous avons notre Parthénon, ce sont les cathédrales gothiques.
L'Allemagne, justement, est très présente dans l'exposition. Au début de l'exposition, dans la troisième salle de l'exposition en particulier, avec beaucoup de paysages ou de vues de cathédrales par des romantiques allemands, et à la fin, avec la confrontation, l'avant-dernière salle, avec la guerre de 14-18 et la cathédrale de Reims, qui fait l'objet d'une cristallisation entre l'Allemagne et la France.
Oui, on avait de très bonnes raisons de travailler avec l'Allemagne, tout simplement sur le fond, parce que c'est Goethe avec son livre en 1772 autour de la cathédrale de Strasbourg qui s'appelle De l'architecture allemande, qui réhabilite la cathédrale gothique comme un objet artistique fascinant. Très tôt et avant la France, on voit fleurir des représentations en Allemagne. Pensez à Friedrich, pensez à Carus, bien sûr, qui sont présents dans l'exposition, encore Bleschen, qui est moins connu et qui est tout à fait remarquable, mais c'est un aspect, je dirais, onirique de la cathédrale comme une sorte de vision, souvent d'ailleurs alliée à la nature, comme toujours chez Friedrich. Mais on a aussi tout un courant plus fondé sur l'étude et sur l'architecture, et là c'est Schinkel qui en est le leader, qui est un artiste aussi fascinant parce qu'il a produit un nombre de dessins considérables, on en a plusieurs en exposition, puis des tableaux d'une sorte de rêverie romantique, cathédrale au bord de la mer qui est complètement fascinante. Donc on voit que en fait ces artistes-là, bien avant la France, s'attachent à représenter la cathédrale, à en faire un objet d'étude, d'intérêt, et surtout on va faire du gothique le style allemand, et donc reconstruire certains édifices dans ce style-là. Et c'est l'histoire de l'achèvement de la cathédrale de Cologne après 500 ans d'interruption du chantier. Donc c'est un point de départ très important. Mais ensuite, il y a l'Angleterre, qui pour nous en Normandie a beaucoup d'importance, puisque on voit Constable Turner qui à travers la cathédrale de Salisbury, par exemple, montre le gothique dans leur représentation, et comment ces artistes-là et d'autres comme David Roberts ou James Roberts ou d'autres qui viennent en Normandie peindre les monuments gothiques normands, la cathédrale de Rouen en particulier, bien avant que les Français s'y intéressent. Et là, c'est assez intéressant de voir la bascule avec Corot. On montre face à face Corot avec la collégiale de Mantes, qu'il appelait la cathédrale de Mantes, et Constable avec la cathédrale de Salisbury, et c'est exactement le même procédé. On sait à quel point Corot a été marqué par le paysage anglais. Donc on a finalement cette transmission d'un modèle sur le sol français grâce aux artistes anglais. Et puis après, bon, ben c'est Victor Hugo, c'est la révélation de ce gothique qui est finalement un libérateur, parce que qui dessert le carcan de l'antique. Ce n'est plus simplement Rome et la Grèce, c'est aussi le Nord, et un gothique qui encore est mal compris et qui donc est interprété. On le voit dans les arts décoratifs, parce qu'on a un prêt tout à fait exceptionnel du musée des arts décoratifs et d'autres musées, parce qu'il y a une salle avec plus de 120 objets réunis.
Des chaises, avec des vases.
Voilà, le fameux style à la cathédrale, donc on révèle l'existence quasiment, parce que c'est un objet qui est assez peu étudié.
Quelle différence avec le style troubadour? C'est un petit peu, on n'est pas loin.
Alors, dans les arts décoratifs, on appelle ça le style à la cathédrale. Mais dans la peinture, on va dire le style troubadour. Voilà, mais c'est effectivement assez concomitant.
C'est l'idée de Marie d'Orléans, par exemple.
Par exemple, ou de la comtesse d'Osmond. Et le premier à avoir lancé cette mode, c'est Chateaubriand à la vallée au Loup. Mais on voit que le gothique, à ce moment-là, l'art des cathédrales, permet par sa nouveauté, finalement, sa fantaisie, de casser des formes qui étaient assez répétitives dans les arts décoratifs comme dans la peinture, et d'introduire un élément de création tout à fait original. Voilà, donc finalement la cathédrale devient un renouveau des formes. On le voit y compris jusque pendant les avant-gardes, puisque rappelez-vous, Apollinaire dit que les cubistes ont renoué avec les vraies origines de l'art français, le gothique, et on le voit à travers, par exemple, Delaunay, hein, le déambulatoire de Saint-Séverin ou la cathédrale de Laon, et chez les avant-gardes allemandes, en particulier Feininger, qui répète de façon obsessionnelle les motifs de la cathédrale. Voilà. Et je voulais absolument montrer cette gravure de Feininger qui s'appelle La cathédrale, qui est la couverture du Bauhaus, du programme fondateur du Bauhaus. Donc on voit bien que la cathédrale, à ce moment-là, incarne non seulement l'édifice du passé, mais celui du futur. Et rappelez-vous que les architectes du Bauhaus ont construit les buildings des États-Unis.
Alors, pour conclure avec cette exposition, ce qui est remarquable aussi, c'est la scénographie est très belle, avec de très beaux coloris sur les murs, ça je veux dire que j'ai beaucoup apprécié, qui ont fait une espèce d'œuvre d'art elle toute seule.
Oui, c'est une scénographie de Martin Michel, avec qui j'avais fait Cabanel, et j'avais eu une collaboration avec lui vraiment très heureuse. C'est quelqu'un qui sait magnifier les objets, et quand on est avec 300 objets qui vont de la tête monumentale issue du portail de Notre-Dame de Paris à l'éventail en passant par les tableaux de maître, c'est pas facile. Donc il fallait absolument un très très bon scénographe, et le pari est réussi. Quant aux couleurs, effectivement, elles sont remarquables. On a même créé une couleur avec Little Green, un bleu cathédrale que vous pouvez acheter pour repeindre votre intérieur.
Alors le temps des collections, venons-en maintenant à cette... on parlera après de votre programme d'exposition à venir, mais alors c'est une chose aussi que j'ai plusieurs fois soulignée dans la Tribune de l'Art. C'est une initiative que je pense vraiment très intéressante et qui devrait être reprise. Je crois d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul musée à faire des expositions d'ossiers autour de vos collections, mais vous êtes peut-être le seul à le faire de manière systématique dans plusieurs endroits des collections, des expositions d'ossiers. Donc c'est ça, c'est le temps des collections, ça dure assez longtemps, ça dure 6 mois, je crois.
Oui, c'est encore en cours, je crois, 17
mai. Encore en cours. Vous avez des expositions d'ossiers autour des collections. Ce qui oblige les gens, finalement, c'est le problème que dit Pierre Rosenberg, c'est-à-dire que les expositions sont pleines, ce qui n'est pas toujours vrai, mais les expositions sont pleines et les musées sont vides, ce qui est hélas souvent vrai. Et là, ça fait venir les gens dans les collections permanentes, pas pour de mauvaises raisons. Je ne parlerai pas d'un de vos confrères qui fait dans les salles... Enfin bon, je n'en parlerai pas. J'ai pas vu, surtout quelque chose que je n'ai pas vu, plutôt que je n'ai pas entendu, donc je n'en parlerai pas, mais j'irai le voir ou je l'irai l'entendre. Mais moi, je pense que quand on dit qu'on fait venir les gens dans les salles des musées, il faut les faire venir pour de bonnes raisons. Et je pense que quand vous les faites venir pour des œuvres, souvent des œuvres qui appartiennent à votre musée d'ailleurs, sont des expositions de dossiers, c'est pour de bonnes raisons. Et là, ils peuvent effectivement surtout viennent voir cette exposition aussi, parce que c'est un événement. Donc ils viennent voir l'événement et voient les collections permanentes. Je pense que c'est ça votre objectif.
Oui, ça part d'une réflexion et de l'expérience que j'ai vécue à Montpellier. La première réflexion, c'est que quand on prête un tableau, un chef-d'œuvre du musée dans une exposition à l'étranger, on déplace les foules. Quand ce tableau revient chez vous, c'est un peu incognito et finalement le public ne se précipite pas pour voir ce qui est là à ses portes en permanence. La deuxième chose que j'ai pu vivre à Montpellier, c'est la frénésie dans laquelle on s'engage dans la succession des expositions, puisqu'on est sans cesse en train de préparer l'exposition suivante. J'avais compté avant de partir, j'ai fait 22 expositions à Montpellier, donc je peux vous dire que c'était extrêmement, extrêmement actif. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est que j'avais organisé 6 expositions d'art contemporain qui se sont succédées, 6 monographies sur l'espace de 1 an et demi, et j'avais des grands amateurs d'art contemporain qui me disaient « Ah mais non, mais j'ai pas eu le temps de les voir toutes ». Alors je me suis dit « Bah si les grands amateurs d'art contemporain ne viennent pas voir les expositions d'art contemporain qui succèdent au rythme d'une tous les deux mois dans un musée, ça pose problème. Donc il faut repenser le rapport effectivement entre le permanent et l'éphémère, entre les collections et les expositions. Mais en même temps, je vous suis très reconnaissant d'en parler, parce que on est confronté à un problème de taille, c'est qu'une exposition dossier ne déplace pas la presse et ne fait pas parler d'elle. Donc il faut créer aussi l'événement. Donc l'idée là du temps des collections, donc c'est une expérimentation qu'on a mis en place et qu'on espère pérenniser, c'est de produire en même temps un nombre d'expositions de dossiers important, donc 6 ou 7, ce qui veut dire que on renouvelle à peu près 10 à 15% du parcours permanent, de tout inaugurer en même temps, de multiplier donc les points de vue, d'ouvrir, en fait c'est aussi la logique d'ouvrir le musée vers d'autres horizons, inviter des chercheurs, inviter des artistes, c'est pas simplement travailler en vase clos, c'est faire venir des par exemple nous avons travaillé sur Duchamp avec Germain Viat pour repenser le parcours des collections, c'est donc aussi ouvrir le musée et proposer en plus, parce qu'il faut aussi penser tout cela en termes d'image, en termes de scénographie, proposer à un créateur de coudre toutes ces expériences diverses dans une esthétique unique. Alors, tout ça est accompagné de l'édition d'une revue annuelle du musée, Le Temps des Collections, qui est à la fois le catalogue de cette manifestation, mais aussi un espace pour la recherche. On publie des études sur les collections. C'est, je crois, la seule en région, on peut dire, en France, dans des musées de région.
Il y a Péristyle, par exemple, à Nancy.
Oui, c'est une revue des amis. Musée.
C'est ça,
Là, c'est une revue qui fait 220 pages. En tout cas, c'est, disons, l'ambition d'avoir une revue scientifique du musée annuelle, qui soit un espace aussi pour parler de la vie des collections, la vie du musée, et un espace ouvert pour la recherche. Et je dois dire aussi que c'est un projet qui est financé aux 2/3 par un mécénat de la Matmut, pour la nommer. Donc c'est je crois un projet qui est ambitieux, qui est lourd, je ne veux pas le cacher, à mener, mais qui a aussi pour objectif de rendre visible le travail souterrain que l'on fait. C'est-à-dire que maintenant, quand on restaure, quand on acquiert, par exemple, on a acquis ce sac SP très récemment, on fera une exposition dossier dans le cadre du temps des collections à l'automne pour montrer qui est cet artiste sac SP et comment il s'insère dans la production de la peinture religieuse à Rouen au XVIIe siècle. Et c'est aussi pour retisser un lien avec le public de proximité, pour faire en sorte que les Rouennais et au-delà reprennent le chemin de leur collection au moins une fois l'an, ce qui serait déjà magnifique. Donc du coup, la programmation du Musée des Beaux-Arts de Rouen, elle est maintenant calée sur deux temps forts, une grande exposition de qualité internationale avec toujours des partenaires importants. Là, cette année, c'est Cologne, l'année prochaine, ce sera Bruxelles et Sienne, etc. etc. Tous les ans, au printemps et l'été, et à l'automne, un grand rendez-vous sur les collections sur lequel on s'investit avec la même énergie.
Est-ce que vous pouvez dire justement votre prochaine grande exposition?
Alors l'année prochaine, une grande exposition sur l'art à Sienne, au gothique et à la Renaissance. C'est la première exposition depuis 30 ans en France, la grande exposition qui avait lieu en 82 à Avignon. Donc c'est une exposition qui est montée avec la Pinacothèque de Sienne et comme coproducteur Beaux-Arts Bruxelles. Donc je crois que ça sera important. Nous voulons aussi confronter la collection de la Pinacothèque de Sienne avec des œuvres issues des musées français qui nous ont été désignées par quelques grands spécialistes de l'art italien comme Michel Laclotte par exemple. Donc une exposition, je pense, qui fera date, qui sera aussi au aux portes de Paris, donc très intéressante pour les publics de l'Île-de-France. Et puis en 2016, nous revenons avec le Festival Normandie Impressionniste sur une troisième exposition impressionniste, sur cette fois-ci la sphère de l'intime chez les peintres impressionnistes. Donc on va prendre le contre-pied de cette autre tarte à la crème qui est le plein air, pour montrer plutôt les intérieurs, l'univers, et rentrer dans l'intimité de ces personnages que l'on connaît fort peu derrière leur tableau. En 2017, nous travaillons sur une grande exposition autour de la famille Duchamp, les cercles Duchamp, puisque ce sera le 50e anniversaire de la grande exposition Duchamp qui avait lieu au musée des Beaux-Arts de Rouen en 67, un an avant la mort de Marcel, qui était le dernier survivant d'une fratrie d'artistes, de quatre artistes. C'est en ce sens qu'on a reformaté le parcours des collections. Et en 2018, nous travaillons avec la National Gallery de Londres sur Géricault et l'Angleterre, une exposition avec à laquelle est associé Bruno Chenic, qui avait déjà travaillé à Lyon sur Géricault. Voilà pour le programme des grandes expositions.
Très bien.
La revue de presse.
Alors, Vincent Noce, dans Libération, qui décidément suit vraiment ses dossiers, revient sur l'affaire du musée Picasso, puisque, rappelons-nous, c'est Vincent Noce qui avait dit que le musée Picasso ne rouvrirait pas en juin. Et beaucoup de personnes avaient dit, mais si, ça rouvrira en juin. Résultat, c'est reporté à septembre, octobre, je ne sais pas. Donc, Vincent Noce publie un article où il signale des choses assez curieuses, puisque peut-être, en tout cas c'est ce qu'il dit, le musée Picasso aurait construit un bâtiment sans prendre toutes les précautions nécessaires du point de vue de l'urbanisme et des autorisations d'urbanisme. Bon, c'est une affaire à suivre. En tout cas, je renvoie à l'article de Vincent Noce qui s'appelle « Terrain miné derrière les palissades de Picasso ». Vincent Noce qui est un journaliste toujours très très bien informé. Autre article, Blandine Lequin dans Le Figaro, « L'art en photo et en téléchargement ». Nous avons souvent signalé sur la Tribune de l'Art l'extraordinaire effort des musées américains pour libérer les photographies, je ne peux pas employer d'autres termes, c'est-à-dire que les photographies des œuvres d'art deviennent libres de droit, utilisables par tous, pour tous usages. C'est une chose qu'on voit se développer aux États-Unis de plus en plus, aux États-Unis dont on n'arrête pas de dire que ce sont des méchants capitalistes, sauf que ce sont eux qui nous donnent des leçons à la France, puisque la France malheureusement est encore assez loin de ça. Et donc Blandine Lequin nous explique que le Getty Museum a ajouté près de 80 000 photos à ses archives accessibles librement et légalement. Donc c'est toute une photothèque qui se constitue et qui va permettre de faire connaître plus largement les collections des musées américains partout, et je pense que c'est une voie qu'on devrait prendre, puisque nous avons de très belles photothèques, mais qui malheureusement ne sont pas libres de droit, ce qui d'ailleurs est très discutable, puisque la plupart de ces œuvres sont, les œuvres photographiées en tout cas, sont tombées dans le domaine public. Un dernier article qui est paru aujourd'hui dans Le Figaro, un article d'Adrien Goetz, que nous avons reçu dans cette émission, qui parle d'une exposition, enfin d'un événement organisé par Olivia Voisin que nous avons reçu dans cette exposition. Et nous avons d'ailleurs parlé de cela, c'est l'accrochage des grands formats du 19e siècle d'Amiens dans le grand salon, avec sortie des réserves, des grands formats qu'on restaure et qu'on expose. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On parlait tout à l'heure du musée des grands formats qui, on l'espère en tout cas, permettra dans quelques années de montrer à Rouen des œuvres qu'on ne voit souvent pas dans les musées. En tout cas, j'ai à l'exposition d'Evreux dont je parlais, dont Olivia Voisin est également un des commissaires avec Gennaro Soscano de l'INP, Olivia Voisin lui disait qu'elle avait encore elle avait encore déroulé deux ou trois grands tableaux qu'elle est en train de restaurer. Donc le musée d'Amiens fait vraiment une politique que j'admire et que Adrien Goetz également admire beaucoup.
Je suis très heureux de voir que ces grandes machines qu'on avait oubliées ressortent des cartons pour quelqu'un qui a réhabilité Cabanel, évidemment. C'est une grande victoire.
Exactement. Alors parlons maintenant des acquisitions et de votre politique d'acquisition. Alors c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, cette année, vous n'aviez pas de budget, mais... Alors, parlez-nous un peu des budgets, parce que quand même, quand on vient de Montpellier, on a des budgets quasiment et les plus grands budgets de France, et qu'on arrive avec zéro pour une année, en tout cas.
Pour une année, voilà, c'est conjoncturel.
Mais vous avez réussi quand même grâce aux amis du musée. Ça, je ne le savais pas d'ailleurs que c'était les amis du musée qui avaient acheté, parce que c'était une préemption. Donc j'ai appris la préemption, j'ai parlé de cela. Je ne savais pas que c'était les amis du musée, mais il faut le dire, ce sont les amis du musée qui ont acheté ce tableau d'Adrien Sakespé. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu, j'ai malheureusement raté l'exposition chez Christie's, mais j'ai vu le catalogue. J'ai vu ça, mais c'est pour Rouen. Espérons que Rouen va acheter ça. C'est pas très cher, en plus. C'est pas estimé très cher. Ça fait 8000 euros, je crois.
14 000 euros avec les frais, ça fait,
mais c'est, de toute façon, pas loin de 20 000 euros. Pas très cher pour un tableau qui est manifestement très important pour Rouen. Donc, vous avez dit qu'il y aurait une exposition de C, c'est encore mieux autour de ce tableau de Saccespé. Sachant que, moi, j'ai un pour tout vous dire, Saccespé, là, c'est un peu la Madeleine de Proust, parce que Saccespé, c'est une des premières expositions en 84 que j'avais vues à Rouen sur la peinture en or, or à Rouen au XVIIe siècle.
Pierre Rosenberg et
une exposition exceptionnelle. Et Bergaud, ouais. On découvrait des artistes Pierre Letellier, Saccespé, et des artistes complètement
Colombelle, dont on a fait la rétrospective avec Karen Chastagnol et Dylan Bacchus.
Pierre Letellier, Adrien Saccespé, un troisième dont j'oublie le nom, mais était complètement inconnu. Ils sont toujours pas beaucoup plus connus maintenant, d'ailleurs. C'est le travail fondateur, c'était 84. Donc, je suis heureux d'apprendre que ce beau Christ en croix fera l'objet d'un dossier.
Oui, c'est une œuvre très rare parce qu'en plus, elle est signée. Et ça, c'est, je crois qu'il y a 20 œuvres connues de Saccespé et celle-ci est signée. Donc, c'était pour nous, effectivement, une obligation. Alors, je dois dire que pour les acquisitions, nous avons procédé, d'ailleurs, c'était l'année de mon arrivée, à une acquisition très importante puisqu'on avait acheté une vue de Delacroix, de l'abbaye de Valmont.
Oui, dont nous avons parlé également.
Vous en parlé. Oui. C'était un effort énorme, là, pour le coup, parce qu'évidemment, c'était pas 14 000 euros, c'était beaucoup plus. Et nous avions également acquis une aquarelle représentant justement les gisants de l'abbaye de Valmont par Delacroix, qui était aussi pour une somme pour 45 000 euros. Donc, il y a eu des acquisitions majeures dans ce musée par le passé et encore très récemment. Bon, effectivement, là, la conjoncture financière est difficile pour la collectivité territoriale. Nous faisons face à cette année une réduction de budget puisque nous sommes à zéro. L'an dernier, c'était encore 90 000 euros. Il faut rajouter à ça les financements de l'État et les dons des amis. Alors, nous avions pris les devants puisque nous avions très peu sollicité les amis l'an dernier, précisément pour passer cette période de vache maigre. Mais le budget sera réabondé l'année prochaine. Une autre politique d'acquisition, elle est aussi en direction, alors soit voilà, d'une œuvre tout à fait exceptionnelle comme ceux de Delacroix que nous avons acheté et sur lequel on a dû mobiliser l'ensemble des crédits, mais ensuite sur aussi l'ensemble des champs du musée, et ils sont nombreux, puisque l'an dernier nous avons acquis un très joli petit billard à la galerie Terrades, qui représente une scène de folie dans un hôpital dans l'hôpital de Lyon.
Est-ce que je n'en ai pas parlé,
mais il faudra en parler, voilà, qui évidemment a trouvé sa place dans la salle Géricault de façon tout à fait judicieuse. Nous avons acheté aussi un dessin de Well issu de son voyage en Sicile, et nous avons acheté aussi deux carreaux de céramique qui font partie d'une très rare ensemble. C'est le seul ensemble connu de probablement des carreaux pour un poêle de faïence qui représente des musiciens, et cette série est divisée entre le Métropolitane, Sèvres, Rouen et Carnavalet. On est au XVIIIe siècle, c'est de la faïence de Rouen. Et puis nous avons acquis aussi un nombre assez important d'œuvres pour le musée de la Seigle des Tournelles, de ferronnerie, particulier un heurtoir magnifique et du XVIIIe, et des bras de lumière tout à fait remarquables. Donc on a une politique qui est, je dirais, soit on est sur une œuvre vraiment tout à fait exceptionnelle qui mobilise l'ensemble de nos crédits, soit on essaye aussi de favoriser l'ensemble des champs de la collection. Mais on est aussi un musée qui recevons beaucoup de dons, et il faut le dire, le musée de Rouen, rappelez-vous Badrou, la grande collection Badrou, 400 tableaux, 5000 dessins qui sont arrivés tout d'un coup, donc on reçoit très régulièrement des dons, nous en avons reçu encore cette année. François Morlaix par exemple vient nous donner justement la défiguration qu'il venait de réaliser dans le cadre du temps des collections de la justice de Trajan de Delacroix. Nous avons reçu l'an dernier un ensemble de dessins d'Albert Fourier, auquel nous avons consacré une exposition dans le cadre du temps des collections. Autour des illustrations de Flaubert, qui est un peintre normand, mais dont on a désormais un pan tout en complet de l'œuvre. Donc nous comptons bien cette année encore solliciter et recevoir des donations importantes.
D'accord. Et l'étude des collections, alors, vous parlez de Badrou par exemple. C'est vrai que. Il y a eu des publications Badrou, il y a eu la publication de cette étude de numéro 1, qui n'a jamais eu de numéro 2 autour des collections françaises, de la partie française de la donation Badrou, mais ce n'était pas un catalogue complet. Donc il y avait beaucoup d'articles très intéressants, il n'y a pas eu le numéro 2. Et c'est vrai qu'on a l'impression, malheureusement, on ne connaît pas toute la collection Badrou. La collection Badrou n'est pas publiée intégralement.
Oui, c'est vrai. Alors c'est difficile parce que c'est une collection immense, hein, je disais, 400 tableaux et 5000 dessins. Et c'est une collection qui n'est absolument pas limitée dans... Malraux s'intéressait à tout. Il s'intéressait aux ours polaires, aux fleurs, à absolument tout. Et d'ailleurs, il annonçait tout dans des petites boîtes de marchands de chaussures avec des petites fiches. Donc c'est une collection qui est très diverse et qui est difficile de réunir dans un ouvrage unique. Alors on en a étudié une grande partie avec la collection avec l'exposition de Trésors de l'ombre sur le dessin français 18e, parce que c'était quand même sa grande passion, le dessin. Et puis bien sûr, on connaît tous sa passion pour Saint-Aubin. On va pouvoir continuer probablement d'explorer cette collection par pan. Moi, je peux vous dire que nous avons plusieurs projets. Le projet d'abord d'un guide des collections qui est épuisé depuis 11 ans, qui est donc attendu de façon très importante. On a publié le guide des collections du musée de la céramique en 2012. Nous publierons le guide aussi du musée Le Sec les Tournelles en 2015 avec le projet d'une exposition à la Fondation Barnes. Il y a donc des pans de la collection que l'on publie. Sur les dessins, un nouveau volume sur le 17e français serait bienvenu après avoir fait le 18e français.
Il sera bienvenu.
Ouais. Alors c'est des projets, j'irai à l'horizon 2016-2017. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une publication annuelle sur les collections du musée, en plus de la revue Le Temps des Collections. Et puis on a commencé à discuter avec Stéphane Noir d'une revue du Louvre consacrée à Rouen, aux collections de Rouen, ce qui serait tout à fait intéressant avec des études. Par exemple, nous avons publié l'an dernier une étude de Roland Pintat sur un tableau attribué au Gréco. Il y a de nouvelles études qui sont prêtes à publier sur Poussin, par exemple. Donc, ce sont des choses qu'on pourrait réunir dans un volume de la revue du Louvre consacré à Rouen.
Et la publication sur Internet, alors vous disiez que, enfin, vous m'aviez dit avant cette émission que les photos de Rouen étaient sur Joconde.
Oui, alors contrairement à Montpellier où j'avais mené le travail de vulgarisation, mais de médiatisation, si on peut dire, de la collection avec une grande campagne de photos.
Au départ elles étaient petites, maintenant elles sont très grandes.
Vous avez vu, hein. On était prudents au début, on n'avait pas peur de se faire dépouiller. Et comme avant les musées américains, même peut-être, on avait commencé à mettre les photos en grand format. Ce qui était intéressant à Montpellier, c'était l'idée d'un projet complet. Vous aviez à la fois la numérisation de la collection, puisqu'on a par exemple numérisé l'ensemble du cabinet des dessins, sa mise en ligne, mais aussi la numérisation d'archives. Et ça, c'est une ressource. Par exemple, toutes les archives Cabanel que m'avait très généreusement donné Philippe Borde sont accessibles en ligne. S'il y a des gens qui veulent rechercher dans les archives de Philippe Borde, c'est sur le site du musée de Montpellier, le musée Fabre de Montpellier. Il y a d'autres archives en ligne. Donc ça, c'est un programme auquel je m'étais attaché, que je ne peux pas reconduire d'emblée comme ça à Rouen, parce que c'est un programme qui à Montpellier avait coûté 1 million d'euros, donc c'était évidemment un concomitant avec grand chantier. Donc notre logique à Rouen, c'est d'avoir des objectifs tenables de récollement intelligent, c'est-à-dire par fond, par siècle, par technique, et de reverser tout ça sur Joconde. Donc nous allons reverser par exemple petit à petit les 1000 notices de dessins 18e qui ont été réalisées l'année dernière.
Et alors revenons juste une chose sur les acquisitions, j'ai oublié de vous poser la question. À Montpellier, vous avez un club d'entreprise. À Lyon, il y a également un club d'entreprise qui permettent de faire des achats souvent, de compléter de manière assez importante. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour Rouen?
Oui, alors je dois dire qu'on a beaucoup accru les mécénats depuis mon arrivée à Rouen. Malheureusement pas sur les acquisitions. On n'a pas réussi à sensibiliser encore un mécène sur les acquisitions, ça viendra sans doute. Et l'idée d'un club fait son chemin, un club de membres, de gens qui nous suivraient, qui nous accompagneraient. Je pense qu'il fallait aussi créer une dynamique. Vous savez, à Montpellier, si on a fait cette fondation pour le musée, c'était dans la foulée de la rouverture. Donc à partir du moment où vous avez un musée qui va de l'avant, on vient vers vous et on vous accompagne. Ça ne peut pas être créé comme ça, d'un claquement de doigts, de but en blanc. Les mécènes sont très sollicités en ce moment, évidemment parce que ce sont des années difficiles, leurs budgets sont aussi en baisse, donc on ne peut pas les mobiliser sur tous les secteurs. Nous, cette année, nous avons de très beaux mécènes qui permettent des actions importantes autour des expositions, bien sûr, le temps des collections aussi, mais aussi des actions de médiatisation. Par exemple, le musée sera ouvert gratuitement, et l'exposition compris, le 14 juillet à tout un chacun. Vous voyez, donc ce sont des grâce à notre mécène. Donc ce sont des choses qui sont importantes aussi. Sur les acquisitions, c'est plus complexe. Je crois qu'un mécène, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir juste son nom sur le cartel, vous voyez, avec le concours de telle ou telle entreprise, quand il faut mobiliser des sommes colossales.
Livre.
En quelques livres que nous avons reçus cette semaine, alors ce n'est pas un livre, mais il faut le signaler parce que c'est une revue, nous donnerons bien sûr son sommaire sur la Tribune de l'Art, c'est la revue de Versailles, la revue de la Société des Amis de Versailles, qui est toujours une superbe revue, qu'on a toujours plaisir à recevoir et à lire, parce qu'elle donne beaucoup d'informations sur les restaurations, les acquisitions, etc., du musée de Versailles. Comme autre livre reçu, Felice, par Catherine Pinguet, au CNRS Édition. Je n'ai pas lu ce livre, hein. Ce sont des livres que nous avons reçus, que je peux simplement vous dire de quoi il s'agit en le feuilletant. Felice Beato, 1832-1909, aux origines de la photographie de guerre. Donc c'est un photographe manifestement qui est allé sur les lieux de combat dans beaucoup d'endroits. C'est un livre qui semble en tout cas à le feuilleter tout à fait passionnant. Un petit fascicule sur une découverte dont nous avions parlé sur la Tribune de l'Art. C'est au musée Tessé du Mans, un chef-d'œuvre de Bartolomeo Manfredi redécouvert. Donc c'est un des rares Bartolomeo Manfredi des musées français. Donc c'est un nouveau.
Une collection italienne a tombé par terre au musée Tessé.
Un nouveau tableau, oui, effectivement. Oui. Donc c'est un musée qui, je crois en tout cas, un conservateur qui est en train de lui aussi faire un travail sur ses collections. Et je pense que c'est un musée auquel il va falloir s'intéresser dans les années qui viennent. Une exposition dont nous parlerons dans quatre étapes, dans le Nord, Henri Le Sidaner. Donc c'est une exposition.
Je veux absolument la voir, voilà. Parce que c'est vraiment une redécouverte très importante.
Il y a quatre musées, en fait, qui
accueillent cette exposition. Toutes les dates ne se chevauchent pas. Donc
c'est le musée de Cambrai, la maison départementale du port d'Étaples, le musée des Beaux-Arts de Dunkerque, le musée Saint-Guerre, ça c'était en Hollande, pardon, c'est une première partie. Enfin bref, c'est assez compliqué, vous aurez un article sur la Tribune de l'Art par Bénédicte Bonnet-Saint-Georges. Et vous-même, est-ce que vous avez vu quelques expositions, quelques livres dont vous voudriez nous parler? Vous me parliez avant, vous êtes allé à Londres,
Oui, Véronèse, vraiment sublime, allez-y, c'est incroyable, la réunion d'œuvres qui est là,
une qualité
exceptionnelle, d'une taille, il faut le dire, on a déplacé des mastodontes, c'est vrai, moi j'ai vu arriver les caisses, c'était tout à fait remarquable,
la lumière du jour, et puis
voilà, un travail scientifique vraiment époustouflant, et puis surtout, on connaît les Véronèses de la National Gallery, on est tellement content de les voir complétées par l'ensemble de ces tableaux venus d'Italie qui sortent.
C'est un très beau travail.
C'est un énorme travail, oui.
Vous parliez également du musée Bonnard au Canet.
Oui, je veux dire à quel point toujours souligner, c'est un musée dont j'ai presque vu la naissance, puisque je me souviens quand j'étais au musée Fabre d'avoir reçu, avant même que l'existence du musée, des demandes de la municipalité du Canet qui disait voilà, on aimerait faire des expositions. Alors ils ont commencé très simplement avec des artistes oubliés comme Georges d'Espagna, donc on avait prêté, on les avait aidés, et il faut souligner l'effort de cette municipalité qui a aménagé un musée qui est remarquable, qui est tout neuf, qui est avec du matériel tout à fait de dernier cri, et qui achète et qui constitue une collection. Alors il y a eu bien sûr, il faut souligner l'apport de Françoise Cachin qui avait orienté la collection Philippe Meyer, les Bonnards de Philippe Meyer vers le Canet. Mais il continue à acheter avec des choses assez heureuses. Et puis une politique.
Je vous rappelle parce que je crois que nous n'avons pas parlé de leurs dernières acquisitions.
Oui, et puis une politique d'exposition qui est intéressante. Là, c'est le deuxième volet d'une exposition, d'une collection particulière sur les nabis. Et il y a des choses tout à fait remarquables. Il y a un bois gravé de Gauguin qui est quasiment unique. Et il y a un magnifique projet de Bonnard pour un abat-jour qui est vraiment à tomber par terre, des très beaux tableaux également. Donc je trouve qu'il faut souligner que les municipalités qui ne sont pas forcément des grosses villes sont capables de réaliser l'exploit d'ouvrir un musée tout neuf et de tenir une programmation de qualité.
Et pour conclure, un livre dont vous voulez nous parler, Patrick Boucheron.
Oui, Patrick Boucheron, qui est professeur à Paris 4 et qui a publié ce magnifique livre, Sienne 1336, Conjurer la peur.
Dans le cadre de
la jeune documente. Et c'est un livre qui est très ambitieux avec un petit peu, je dirais, toute proportion gardée, parce que voilà, c'est un de nos maîtres à la Panofsky, avec une volonté de décrypter une iconographie très complexe autour de la fameuse fresque du bon et du mauvais, l'allégorie du bon et du mauvais gouvernement par Ambrogio Lorenzetti au palais ducal de Sienne, fresque que nous nous proposons
de faire venir à Rouen.
Eh bien, vous n'êtes pas tout à fait dans l'erreur, puisque nous allons tenter de proposer une recréation, une reconstitution de cette fresque avec des techniques contemporaines, avec des techniques de reproduction contemporaine, de façon à ce que cette œuvre clé pour la compréhension de l'art siennois soit présente dans l'exposition. Et je pense que rien que cela méritera le détour par Rouen.
Eh bien, nous verrons cette exposition avec plaisir. En attendant, je conseille donc à tous les auditeurs, lecteurs de la Tribune de l'Art, d'aller voir l'exposition cathédrale dont nous parlerons bientôt. Merci beaucoup, Sylvain Amic.
Vous devez parler des petits musées, on n'en a pas parlé.
Vous avez raison, alors nous avons encore le temps. En fait, nous pouvons déborder, puisqu'il n'y a pas d'émission après nous. Donc c'est vrai, vous avez raison. Décidément, je suis très oublié aujourd'hui. Effectivement, vous tenez absolument à en parler, c'est les petits musées autour de Rouen, les musées normands que vous souhaitez effectivement aider.
Oui, je crois, je suis très préoccupé par le sort, vous avez parlé par exemple du musée Saint-Quentin, le musée L'Écuyer, tous ces petits musées qui ont des collections parfois très intéressantes et qui survivent avec des moyens très faible. Et l'idée du temps des collections, c'est aussi de permettre à ces musées qui sont autour de nous de recevoir des prêts exceptionnels qui leur donnent une certaine actualité, une certaine visibilité. Et donc, je veux signaler que le 17 mai, jour nuit plutôt des musées, hein, puisque ce sera la fête des musées la nuit du 17 mai, nous inaugurerons dans le musée des Andelys. Nous avons prêté un tableau de Poussin, le Saint-Denis, l'aéropagie de Poussin, et que avec ce prêt exceptionnel, Pierre Rosenberg viendra faire une conférence dans la ville natale de Poussin.
Alors Pierre Rosenberg, d'ailleurs, dans la préface du catalogue consacré à Georges Latour au musée de Rennes, justement, parle des Andelys en disant il est regrettable que le musée des Andelys n'ait plus. Il fait référence au musée de Vire-sur-Seille, qui est un musée de la Tour, que le musée des Andelys n'est plus le musée Poussin. Donc,
Eh bien, vous voyez, les choses changent, voilà. Les choses sont en marche, et je crois que c'est notre devoir à nous, grands musées de région, de contribuer à cela. Je pense, quand on a 3000 tableaux dans ses collections, on peut se passer de quelques tableaux pendant quelques temps. Vous savez, on prête à des très grands musées, pourquoi on ne prêterait pas à des petits musées également, surtout quand ils sont à proximité, quand on est à 30 km, 40 km, 50 km du musée.
C'est vrai, vous n'êtes pas loin de me convaincre de cela.
Je n'espère pas.
Non, tout à fait, sachant que moi, je suis assez opposé, en général, auprès d'une œuvre, mais en tout cas, c'est absurde quand on voit l'Afrique Collection de voir une œuvre invitée, entre guillemets, qui vient d'un grand musée européen, parce qu'il y a suffisamment à voir l'Afrique. En revanche, localement, un grand musée comme Rouen qui envoie une œuvre de Poussin aux Andelys, ça peut avoir un sens, parce que ça attire l'attention sur ce musée des Andelys que personne ne connaît et que personne ne va voir, et donc ça permettra peut-être à la fois de lui donner de la publicité, et de le faire connaître, et aussi de donner peut-être aux élus des Andelys l'idée d'un musée, c'est finalement pas mal.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que pour que ce soit possible, il a fallu faire des travaux dans le musée, il a fallu mettre une alarme dans le musée, il a fallu faire tout ce qui est nécessaire, et c'est l'idée, c'est de créer cette dynamique en essayant de donner un peu de notre collection, mais aussi notre visibilité quand on peut accompagner dans le cadre de grandes manifestations comme le temps des collections, ou même l'exposition cathédrale, puisque vous avez une exposition du musée des Antiquités et une exposition de la maison Vacry, le musée Victor Hugo à Villequier, qui sont conjointes à notre exposition sur les cathédrales. Donc je crois que c'est aussi notre rôle d'être un animateur de réseau. Et vous parliez tout à l'heure des musées du Nord, ils ont fait ça très très bien avant tout le monde. Et je pense que c'est très important de faire vivre ce tissu, parce que sinon ces petits musées vont finir par péricliter, on en perdra l'utilité. Or, le public des Andelys n'est pas forcément le public de Rouen. Je ne suis pas sûr que la population des Andelys se déplace jusqu'à Rouen pour voir nos collections. Donc là, c'est une façon aussi d'aller au devant d'eux, et ça fait partie dans notre programme, le temps des collections hors les murs.
En tout cas, vous faites cette exposition pas dans un chapiteau à côté, vous faites cette exposition dans le musée des Andelys, donc c'est absolument vertueux. Merci en tout cas, Sylvain, d'avoir répondu à nos questions. La semaine prochaine, nous reviendrons, ce n'est pas encore complètement défini, ce sera le mercredi 30 avril ou le vendredi 2 mai, puisqu'il y a le pont du 1er mai, mais nous aurons une émission quand même la semaine prochaine. Nous vous en dirons plus sur la Tribune de l'Art, que vous lisez bien sûr tous les jours. Merci, à bientôt. Thank you.